Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 8 août 2025. On se retrouve avec un Bitcoin quasi à 117 000 $, mais c'est surtout du côté des altcoins que ça pousse avec un Ether de nouveau au-dessus de 3009, 6,63% sur les dernières 24 heures, plus 12% pour le XRP, plus 16% pour le Stellar XLM, 10% pour Sui, 13% 32% pour Chainlink. On va y venir dans un instant, il y a une petite information positive. Plus 8,45% pour Uniswap, on a plus 22% pour Mantle, très beau réveil de la DeFi. D'ailleurs, tout ce qui est Mantle, Pendle et Tena en ce moment, ça pousse très fort. On est à 44% en hebdo. Plus 8 du côté de Ondo, plus 7 pour Near Protocol. On a un plus 10 pour Algorand et on clôture le top 50 à 1,85 milliard de capitalisation avec le token Official Trump, donc qui est le même coin de Trump qui capitalise, mine de rien, pas loin de 2 milliards. Sur l'action de prêt en 4 heures, on note toujours un désintérêt et désengagement des open interest depuis le point haut ici du 25 juillet. On était à 415 millions, on navigue désormais sous les 300 millions depuis le rebond des 111-112 000 $. On est venu chercher récemment 117-118, donc on est désormais borné entre, on va dire, les 110-112 à 124-125 000 $. Le Crypto Fear and Greed Index est à 74, il repasse très rapidement dans le début d'euphorie et il n'en faudrait pas moins d'un Ether effectivement qui franchisse les 4 000 $ pour d'un seul coup relancer la machine et la spéculation et un peu se côté euphorique du côté des réseaux sociaux. Chainlink donc qui annonce une réserve stratégique par rapport à leur token, ils vont faire un genre de buyback un peu comme on pouvait le voir du côté de AAV notamment, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et ça a été salué par le marché avec une appréciation en très peu de temps d'une quinzaine de pourcents. Trump, c'était l'information énorme d'hier qui aurait signé, ça y est c'est fait, la possibilité d'ajouter du côté des plans 401k, donc c'est les plans de retraite de ceux qui épargnent tout au long de leur vie aux États-Unis, puisque comme vous le savez, ils n'ont pas la retraite par système de répartition comme on l'a en France ou comme on peut l'avoir en Europe. Donc désormais, le plan 401k permettra tout simplement les actifs alternatifs du type digital assets et donc les crypto-monnaies, mais pas que, puisqu'il va y avoir également le private equity, etc. Donc c'est une très bonne nouvelle, en effet, pour un flux constant qui pourrait venir se répandre sur plusieurs années. Ça ne va pas se faire en mode interrupteur turn off. Et puis quand j'ai fait les petites recherches, puisque comme d'habitude c'est bon un peu d'avoir deux sons de cloche, ça pourrait aussi être contrebalancé par pas mal de fonds qui ne voudraient pas venir s'exposer à des actifs aussi volatiles. Donc pour l'instant c'est une bonne nouvelle, mais ça n'est pas encore fait. CryptoGoku et l'autorité bancaire européenne ABE, régulateur bancaire de l'UE, qui finalise le projet de règles pour les banques détenant du Bitcoin et de l'Ether. Et donc c'est un projet assez dingue, ça serait des règles tout simplement qui obligeraient les banques à attribuer un poids de risque de 1250% aux crypto-monnaies non garanties comme Bitcoin et Ethereum. Donc en gros, pour en faire un simple résumé, une banque devra immobiliser 12,5 millions d'euros de capital pour seulement 1 million d'euros de Bitcoin détenus. Donc l'Europe qui continue de s'enfoncer, de creuser et de passer à côté de ce train crypto. ChatGPT-5 est officiellement lancé, donc pour ceux qui avaient déjà l'abonnement et qui avaient le ChatGPT-4o sur leurs applications, ça s'est fait au cours de cette nuit. Vous pouvez désormais encore plus lui poser de questions et toujours plus de réponses pertinentes sur la rapidité, etc. Il y a une unification de toutes les possibilités et petit à petit, c'est en train d'accélérer de façon exponentielle pour l'IA. Le S&P 500 et les performances donc depuis 2015 sur une dizaine d'années, et on voit que la plupart du temps, on a été en positif avec des deltas qui se sont faits entre 0 et une bonne trentaine de pourcents, et les deltas négatif 2018 et 2022 ont fait état de recul d'environ moins 5 à quasiment moins 20%, et également il aurait fallu rajouter donc tous ces moments qu'on a connus en intermédiaire, puisqu'il y avait eu en 2024 le yen carry trade et là plus récemment en avril 2025 le dump des 20% au moment de Trump. Mais quand on regarde sur une année lissée, la plupart du temps c'est rattrapé au cours même de l'année, et c'est ce qu'on a vu là avec le V-bottom depuis avril 2025. Donc c'est un truc à prendre en considération qu'au long terme il vaut mieux rester exposé, en tout cas sur les indices et notamment américains, plutôt que d'essayer sans arrêt de timer et de rentrer de sortir. Probablement que plus tard aussi ça deviendra vrai, en tout cas du côté de Bitcoin pour le marché crypto, mais voilà, ça peut nous donner des pistes de réflexion. Avec Alexandre Baradez et la Fed, donc un des participants de la Fed, Bostic, il déclarait qu'il est probable d'assister à une pression haussière sur les prix pendant 6 à 12 mois, ce qui met la pression sur la Fed. La façon dont les taxes douanières sont déployées rendent difficile l'évaluation sur leur impact et suggèrent que la période pourrait être plus longue qu'anticipée, les petites entreprises commencent à ressentir plus fortement les taxes en raison d'une chaîne d'approvisionnement plus étroite et ont moins la capacité d'absorber ces fameuses taxes douanières sans relever les prix. Et donc en bout de chaîne, qui va payer l'addition comme d'habitude ? Eh bien c'est le consommateur et notamment ceux à faible revenu et une épargne donc de la période de Covid qui a été consommée. Donc il ne faut pas se dire que en effet tout ce qui a été mis en place là par l'administration de Trump n'aura aucun impact sur leur propre économie. À court terme en effet, et notamment si d'ici la rentrée on vient à avoir une baisse de taux en septembre, ça va alimenter un peu, comme on dit en rigolant dans la crypto, le Ponzi. Mais derrière, voilà, on risque d'avoir quand même un retour de manivelle courant 2026. Le hash rate du Bitcoin qui s'est jamais aussi bien porté, on continue de faire point haut sur point haut. Ceci étant dit, depuis début 2025, on voit que, bon, voilà, on reste plus ou moins sur un range ou un point haut qui, finalement, ne progresse pas de façon complètement folle, comme on l'a vu depuis 2022. Donc ça aussi, c'est peut-être avant-coureur, justement, de ce qui pourrait se passer plus tard sur le cours. La moyenne à 200 semaines, comme on l'a vu régulièrement sur l'analyse technique, est désormais au-dessus de 50 000 et continue de grandir. C'était Philip Swift qui mettait ça en avant. Historiquement, lors des bear markets, c'est autour de cette fameuse moyenne mobile 200 semaines que le cours a trouvé de la réaction. La première fois qu'on l'a dépassé à la baisse, eh bien, c'était sur cette itération, quand on est venu à 15 000 au lieu de 20 et quelques mille. Est-ce que ce coup-ci, on ira en dessous ? Bon, je suppose que ça sera un endroit qui sera quand même vachement surveillé de la part des institutionnels. Fineco qui met en avant que tout ce qui se passe au niveau des tarifs et notamment des semi-conducteurs est désormais acté pour les États-Unis, mais avec cette montée en puissance de 100%, il y a quelques exonérations au milieu avec notamment du Apple et du Nvidia, puisque Apple aurait déclaré qu'ils vont réinvestir 600 milliards dans les prochaines années du côté des États-Unis pour relocaliser un peu, et Nvidia aujourd'hui qui est un peu le too big to fail. Donc les deux chouchous américains, Nvidia, Apple, a priori n'auront pas de bâton dans les roues par rapport aux semi-conducteurs. Avec Goku et le dernier rapport de la Fed qui explore le fait de réévaluer les réserves d'or des États-Unis pour financer la réserve stratégique de Bitcoin. Et c'est ce que proposait la sénatrice Cynthia Loomis dans sa loi Bitcoin afin de réévaluer donc cette réserve d'or des États-Unis. Là aussi, il y a pas mal de personnes qui, pour le côté un peu complot-plot, se disent qu'il n'y a pas tout l'or que les États-Unis prétendent avoir. Donc je demande à voir. En tout cas, pour l'instant, on a la Chine qui continue d'accumuler de l'or à un rythme complètement effréné, ce qui a le mérite de maintenir justement le cours du gold relativement haut. Avec Tino Bourse, le FMI qui vient de publier ses projections de croissance, le monde va ralentir, mais pas tout le monde et pas au même rythme, puisqu'on aura une croissance mondiale qui était de 3,3% en 2024. 2025 devrait s'ouvrir sur 3%, 2026 3,1%, donc c'est pas si catastrophique que ça. Et c'est en regardant un peu plus dans le détail dans chaque région où l'on peut apercevoir qu'en effet on aura quelques disparités. C'est pour ça que quand on achète un ETF monde, on n'est pas si mal foutu, et que pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous diversifier manuellement, bien entendu. Journal du coin, 3 millions de dollars envolés en un clic. Malheureusement, un investisseur crypto a perdu plus de 3 millions après avoir signé une transaction frauduleuse liée à une attaque de phishing. Une nouvelle piqûre de rappel sur l'importance de la vigilance dans l'écosystème crypto. Et si je dis pas de bêtises, bien que ça n'ait pas été précisé ici dans le haut de cet article, on a en effet un faux site qui avait été fait sur AAV et une fausse transaction qui a été initiée. Donc comme d'habitude, faites très attention à tout ce que vous signez, que vous êtes bien sur le bon site. Essayez de passer sur un Rabi Wallet qui vous simulera la transaction, et derrière vous verrez que vous vous éviterez bon nombre de problématiques liées justement à tous ces petits piratages en cours de route qui peuvent vous faire absolument tout perdre. Ceci étant dit, avoir 3 millions sur un hot wallet, voilà, la question se pose de qui a commis le plus d'erreurs dans tout ça. Le cours de Tesla qui est en fin de contraction dans un petit triangle ici, compris entre les 280$ et les 350-370, ça va pas tarder à sortir. Dans quel sens, là est toute la question. Sfaibull qui nous proposait un post pourquoi il y a de moins en moins de récessions aux États-Unis en fonction de plusieurs critères: politique monétaire, révolution des transports, croissance de l'information, dynamique démographique. Quel avenir pour cette tendance? Donc je vous laisse consulter le post, mais c'est vrai que c'est de plus en plus quelque chose qu'on a pu observer, et notamment ces 5 dernières années, ça s'est pas mal exacerbé sur cette accélération finale et volatilité des marchés boursiers. Je répondrai dans un instant en fin d'émission à cette question qui avait été posée donc par un de nos fidèles viewers. Il s'agit de nouveau de comparer un peu peu au niveau des ETF et du prix à 5-10 ans en termes de rendement. La volatilité de Bitcoin qui continue de se réduire au long terme, fait marquant, ça s'est nettement exacerbé depuis l'arrivée des ETF spot en janvier 2024. Cela traduit l'acceptation de cette classe d'actifs de la part des institutions et la professionnalisation du secteur. Donc ça, c'est un truc à prendre en considération pour plus tard, en fonction de ce que vous voulez mettre et allouer pour le marché crypto, puisque on le voit, même sur ce cycle, on n'a pas eu des multiples complètement fous. Tesla, ce n'est pas un simple vendeur de voitures électriques, puisque aujourd'hui, on a en effet les robots autonomes, tout ce qui est manufacture, l'AI avec le computing, tout le secteur des bornes de recharge, également ils ont désormais des camions, vous avez la construction en interne de leurs propres batteries, les panneaux solaires, les batteries à la maison, les robots taxis, les robots on va dire ménagers qui vont pas tarder à arriver, le home charging et enfin les véhicules électriques. Donc c'est un peu, quand on parle de Tesla, en effet, comme quand on comparait à l'époque dans les années 2000 Amazon en termes de bibliothèque ou de librairie, voilà, on voit que c'est devenu un petit peu plus par la suite. Circle qui a reculé de plus de 40% désormais depuis son introduction en bourse. Donc là aussi, il y aura peut-être un dossier à venir chercher sur le prochain bear market et faire exactement le même move qu'on a fait sur Coinbase sur ce cycle en accompagnant Circle pour la suite. Et on clôturera au niveau des infos avec Amanda Fischer, ancienne responsable de la SEC et ancienne chef de cabinet de Gary Gensler, qui a publié un trade affirmant que le liquid staking comporte des risques similaires aux pratiques de double staking qu'on voyait chez Lehman Brothers avant l'effondrement de 2008 des subprimes. Ça, c'est un sujet qui est bien plus profond qu'il n'y paraît et bien plus intéressant, et notamment autour de Ethena et de Pendle désormais, tout ce qui pourrait être ramification et implication du côté de Ether, Stake Ether et toute la DeFi avec une méga contagion qui viendrait se propager. C'est un sujet qu'on traitera prochainement dans une émission à part entière et qui, je pense, va vous faire un peu réfléchir là aussi sur votre diversification. 3810 milliards du côté du crypto total. On est venu donc la semaine dernière backtester les 3560. Pour l'instant, statu quo avec toujours 3 points de contact RSI. Est-ce qu'on va faire une oreille de chat sur les 70 de RSI? Est-ce qu'on vient chercher d'ici la rentrée donc un nouveau point haut? Pour l'instant, une consolidation donc est plutôt à la fois neutre et boule, puisque on continue d'être dans le bon sens, à ceci près que, en effet, ben voilà, au niveau pur du momentum RSI, on est plutôt petit à petit sur des points de désengagement plutôt qu'un début de cycle où vraiment on est passé voilà, de 13 juin 2022, un RSI qui est autour de 26 en hebdo, et mars 2024, on a un RSI à 92. Donc vous voyez que cette partie-là du cycle était la plus dynamique quelque part, et quand on la mesure, c'est là où on a fait le gros du bif, entre guillemets, comme diraient les jeunes, puisqu'on a fait 270%, alors qu'à partir d'ici, si on prend vraiment le point de mars 2024 qui devait correspondre autour d'un peu moins de 70 000 dollars pour Bitcoin et qu'on prend le point suivant, on a ensuite imprimé que 44% par rapport à ce second mouvement et les 3 points de contact descendant du RSI. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut vérifier là où on en est par rapport à un cycle. Le best-of, c'est en effet quand on achète bah voilà, sur des points, pourquoi pas aussi comme on avait eu ici autour de fin mars, avril, autour de 40 de RSI. Si on avait payé le point bas ici, on était déjà sur quelque chose de plus intéressant, puisqu'on est sur 70%. Alors que vous voyez qu'en payant mars 2024 à aujourd'hui, on est à peine sur 44%. C'est un exercice et une gymnastique mentale pas évidente à faire, mais une fois qu'on a pris le pli, cela permet d'épurer très rapidement bon nombre de scénarios, bon nombre de dossiers qui sont en train littéralement de se laisser mourir au travers du temps, et ensuite on avance bien plus sereinement. Le crypto total 2 des altes, pareil, petite consolidation juste sous la zone de sortie des 70 de RSI. Est-ce qu'on fait un double top RSI avec un double top du cours qui viendrait chercher à nouveau autour de 1650, ou bien ça y est, l'alt season est en train de se préparer, de s'enclencher, et derrière on va faire un truc vraiment plus intéressant pour cette fin d'année 2025? Tous les scénarios sont désormais sur la table. À ce si près, bien entendu, que vous avez vu, on n'a jamais eu autant de bonnes nouvelles qui sont parues en simultané. On va dire une administration des États-Unis qui ont ouvert les vannes comme jamais on aurait pu l'imaginer et l'espérer. Et pour l'instant, on a quand même des prix qui stagnent un petit peu. Donc c'est peut-être avant-coureur, hein, des prises de profit qu'on continue d'observer on-chain. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui, mini teasing, qu'une personne spécialisée dans l'on-chain va nous rejoindre et nous fera une petite analyse toutes les deux semaines de ce qui se déroule roule uniquement on-chain, donc ça c'est très intéressant. Le ratio USDC-USDT contre le crypto total, toujours en train de travailler le support autour de 0.06, donc ça si ça rebondit, ça voudra dire qu'on a des prises de profit du côté du marché crypto. Le Bitcoin himself qui a bien tanké la zone ici autour de cette petite trend hein, qui passe, qui prend les plus hauts récents, on a la petite trend rouge très long terme également, autour de 117-118, donc on n'aimerait pas perdre en effet autour de 110, sinon ça serait l'appel d'air 105-100, donc au plus bas du plus bas, et pareil les 100 000 je pense que pour plus tard ça sera un peu le juge de paix ou de guerre quand on rentrera en bear market. Donc à aujourd'hui on espère bien entendu construire au-dessus de 110 000, pourquoi pas entre 110 et 125, et d'ici la rentrée faire un petit triangle ici et aller péter au nord 130, 140, 150 en espérant bien entendu que cette double trend RSI également ne vienne pas nous faire barrage. La Bitcoin dominance 60-90 ce matin, donc pour l'instant le support des 61-60 est pas mal travaillé. On va se mettre un petit rectangle d'ailleurs parce que je pense que c'est un peu plus pertinent de viser toute cette zone désormais en termes de support et de résistance. Si jamais ça lâche, on viendrait autour de 55-56, un étage de plus en dessous autour de 48, et ensuite ça ouvre voilà, le potentiel à une véritable alt-season, sachant qu'à l'époque on était passé tardivement, puisque c'était décembre 2020 à au plus bas mai 2021, de 74% à autour de 39, donc on va dire sous les 40, et on avait un RSI qui avait largement balayé de 72-73 à autour de 15, donc on était à moins 79% de RSI au moment où on avait fait ce mouvement complètement fou, et au niveau du cours on était sur approximativement moins 46% de Bitcoin dominance. À aujourd'hui il y a assez peu de chances qu'on fasse ce type d'amplitude, par contre revenir sur une moyenne pourquoi pas autour de 50% de dominance, je dis why not, ce qui nous ferait perdre 10% de dominance et qui permettrait d'aller chercher les multiples dont on a parlé précédemment, à savoir à peu près x2 sur les grosses capitalisations et peut-être jusqu'à x3 pour les trucs un peu moins capitalisés. Ether c'est plutôt propre, voire même plus que Bitcoin pour l'instant, puisque déjà le ratio ETH-BTC se comporte plutôt pas mal. Depuis le point bas ici 0.017, on était revenu travailler la zone de prix de 2020 au niveau de ce ratio d'Ether contre Bitcoin. On aura une zone dure par la suite à venir chercher autour de 0.039 pour pas dire 0.04, et du côté du cours à 3 900 $, ben voilà, c'est, je pense on n'a pas besoin d'énormément le commenter, le bouchon de champagne des 3 900 à 4 100. Si ça pète, on vient chercher l'ATH autour de 4 950 et par la suite découverte de prix de 1000 en 1000, 5000, 6000, 7000, peut-être jusqu'à 10 000. Et on a le RSI qui a bien et bien réagi également autour de la zone qu'il devait défendre, 62. Donc c'est plutôt encourageant pour l'instant pour Ether, à ceci près que sur ce cycle, il nous a tellement fait souffrir qu'on prend les choses comme ça vient et on espère plus grand chose pour la seconde crypto-monnaie du marché, en tout cas pour l'instant. Le DAX allemand et le CAC 40 qui se dirigent de nouveau vers leurs ATH respectifs. 24 192 pour le DAX et le CAC 40. On est quand même un peu plus en retard pour la France. 7 700, j'ai envie de dire comme d'habitude. On s'était fait repousser des 7 009 et on a un ATH aujourd'hui à 8 260. Donc l'Europe qui est peut-être un petit peu en train de récupérer son retard. Du côté des futurs pour le Nasdaq et le S&P, ça ouvre dans le vert pour l'instant. Donc pas plus, pas moins également ici avec des États-Unis qui continuent d'alimenter les actions, ça se passe plutôt pas mal. Le taux à 10 ans est toujours autour de 4%25, donc statu quo pour les taux. Je pense que ça risque de latéraliser encore un petit peu dans l'attente en effet d'une prise de décision autour de septembre. Une première baisse de taux de 0,25 points permettrait aussi de détendre les taux longs, je suppose. Le gold 3 400 $ l'once, il n'a toujours pas dit son dernier mot. On a le RSI qui est plutôt toujours sur du désengagement, mais le cours qui a bien construit une solide base entre 3002 et 3005, donc on va voir comment ça va sortir, mais ça a l'air de se vouloir sortir vers le nord de nouveau. Le CW8 World d'Amundi, pas plus, pas moins, donc pareil, on a fait un beau V-bottom, 453 €, on est venu chercher 578, malheureusement dû à la parité euro-dollar qui a chuté en cours de route de la part du dollar, on a un euro aujourd'hui qui est un peu trop fort, et donc on n'est pas venu chercher un nouvel ATH sur cet indice, on s'est fait punir, mais bon, je suppose que quand on regarde le DXY, ça va pas durer indéfiniment le fait qu'il soit baissier. On peut encore baisser, c'est clair et net. On le voit notamment en 2017, on était venu à 88 points pour le DXY, mais faut pas oublier qu'on vient quand même d'une ère Biden où on était à 115, on est venu à 96, donc je suppose que c'est en train un petit peu de se stabiliser pour le DXY qui pourrait d'ici l'automne automne, là aussi, rebondir et peut-être calmer les ardeurs de certains. Du côté des actions, on a Novo Nordisk qui peut-être enfin a trouvé son point bas ici. Donc on est venu quand même chercher des points de janvier 2022. On a une belle zone de support peut-être à défendre, donc c'est ce qu'il est en train de faire. On va même englober voilà, la petite mèche récente qui était autour de 45$ puisqu'on est sur le Nice. Un simple rebond ici des 45 vers la borne haute du range précédent, c'est 60$. Donc pour les traders, bien entendu, qu'ils risquent de vouloir jouer tout simplement cette trentaine de pourcents. Et ensuite, on vient d'une descente ADA complètement monstre puisque c'était 148$ et on a baissé de 70% pour Novo Nordisk qui aujourd'hui apparemment aurait des bonnes nouvelles dans les tuyaux. Et c'est le concurrent Eli qui a été malheureusement puni et qui lui ressemble à Novo précédemment. Donc est-ce que ça va faire un peu les vases communicants? La question peut se poser. Il y en a un autre qui continue de baisser, donc on le laisse se baisser gentiment, mais on est malgré tout peut-être sur une zone déjà qui est relativement clé. C'est AltBG, donc qui est désormais à moins 62, quasi 63% de son top. On ne dirait pas comme ça en logarithmique, mais c'est assez extraordinaire. Quand on regarde en non-log, je pense que c'est un petit peu plus parlant, et d'ailleurs on peut se mettre éventuellement un petit Fibo, donc en cas de baisse un peu plus prolongée, et on voit qu'on est déjà autour du 0,618 qui est à 2,35€, et le 0,786 serait à 1,33€. Donc ça fait partie hein, des sociétés qui ont été hyper spéculées du côté des PEA français, puisque ça permettait d'avoir un proxy comme ça qu'on pouvait glisser dans un PEA et qui détiennent énormément de Bitcoin. Quelle va être la suite de ce genre de société Treasury Company quand il s'agit de Sailor? Voilà, ça se passe plutôt pas mal avec MicroStrategy. Quand il s'agit de ceux qui s'y sont mis un peu tardivement et notamment des sociétés qui n'étaient pas en grande forme financière, je me pose la question de ce qui va se passer lors du bear market. Du côté des altes, comme on l'a vu tout à l'heure, on a quelques perfs qui commencent à sortir du lot, et là c'était Pendle, Mantle, Lido, Chainlink qui en ce moment on le vend en poupe. Alors là on n'a quasiment pas d'historique parce qu'on est sur Coinbase, ils ont dû l'introduire il n'y a pas si longtemps, mais on a fait une remontada récente pour Mantle de 0,55 à 1$, on est sur 1x2. Lido, le dollar symbolique, là pareil on a fait un W hebdo, un retest qui finalement aurait dû plutôt se faire autour du $10. On vient rechercher le support des 90 centimes. Donc Lido qui est bon, quand on regarde comme ça on peut se dire oui il n'est pas en train de mourir contre le dollar. Si vous regardez contre Bitcoin voire contre Ether, c'est dramatique. Donc comme d'habitude, à vous de gérer vos pondérations. Pendle, on en avait discuté depuis un bon moment, et notamment cette zone qui était intéressante autour de $2. Ici on est à $5 aujourd'hui, un des bons élèves puisque lui à contrario on est dans un grand range un peu. Ça peut faire penser à ce qu'on avait vu sur BNB lors du bear market, et donc lui on peut estimer en effet qu'il viendra chercher un petit peu mieux si on a une alt season à l'horizon. Et enfin on clôturera avec le bon élève du jour sur fond de news de réserve et de réaccumulation pour Chainlink. Donc on était quasi venu ici en avril 2025 chercher à nouveau la zone de sortie autour de $9.70. on avait défendu les $10 pour Chainlink, on a quasi $19 aujourd'hui, un point haut de décembre 2024 qui était autour de $30, et un ATH pour ce dernier qui se trouve aujourd'hui à 52, ce qui fait des amplitudes qui sont loin d'être déconnantes puisque le point haut de décembre c'est 64% et l'ATH c'est 178%. Donc clairement il suffirait d'un bon momentum, d'un petit peu de hype et d'euphorie sur les réseaux sociaux pour qu'un token comme Chainlink revienne truster pour sa part un ATH qui est vraiment pas très loin en termes de pourcentage, et en termes de capitalisation ça serait là aussi pas déconnant. Et avant de clôturer cette émission, on passe à la réponse à la question du jour avec Jao Dler qui nous disait que par rapport à l'Europe et au CAC 40 et le fait que l'IA ne veuille pas en mettre dans un portefeuille action parce que justement c'est trop corrélé aux États-Unis, il demandait de comparer le S&P 500 dividendes réinvestis au CAC 40 GR, c'est-à-dire gross revenu avec justement les dividendes réinvestis, et si l'écart était toujours significatif. Donc une simulation à 5 ans donnait le S&P 500 à 15,7%, le MSCI World à 11,6%, le CAC 40 GR avec dividendes réinvestis à 12,3%. Donc le CAC 40 qui bat d'une courte tête sur 5 ans le MSCI World de 0,7 points, et on a sur 10 ans donc le même ordre avec 13,5 pour le S&P, 9,4 pour le World et 7,7 pour le CAC 40. Donc en effet, plus on étend le temps et plus le CAC 40 sous-performe de quasi un ratio de x2 le S&P 500 par rapport aux États-Unis, d'où le fait que l'intelligence artificielle en effet choisissent de sous-pondérer, voire d'oublier complètement la zone européenne. Ça sera peut-être pas toujours vrai. Peut-être qu'il y aura un an, deux ans, cinq ans où ça sera l'Europe qui surperformera les États-Unis. Mais pour l'instant, en effet, vu comment se passe le monde, et notamment, comme tu l'as souligné en commentaire, sur la performance des sept magnifiques, de l'IA et de la technologie, c'est très difficile de rivaliser à ce jour avec les États-Unis. Je vous souhaite une excellente journée, continuez d'être prudent et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.